Ok, gloire au Seigneur qui nous a donné la vie, celui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a donné la capacité de réfléchir et même la capacité de parler, lui qui nous a sauvés par sa grâce, car il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Mais bien-aimé, c'est déjà le 9e jour aujourd'hui que nous parlons sur les fêtes de l'Éternel, et aujourd'hui, comme prévu, nous allons avancer et nous allons parler de la fête des expiations, ou plutôt le jour des expiations, qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour. Alors très rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Lévitiques. Nous allons lire du premier, Lévitique chapitre 23, du premier au deuxième verset, et ensuite nous lirons du verset 26 au verset 32. Lisons la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vos pour où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 32 enfin, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, c'est-à-dire du 10e jour. Vous célébrez votre sabbat. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit la fois passée qu'en fait, ces fêtes, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et quelles sont ces fêtes? Nous avions dit qu'il y avait sept fêtes. Les trois premières fêtes étaient célébrées le premier mois et la quatrième fête était célébrée après 50 jours, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte. Et ensuite, les trois dernières fêtes étaient célébrées le 7e mois. Et par rapport au 7e mois, nous avons vu la fois passée la fête des trompettes, qui est la cinquième fête, la fête des trompettes, qui commençait le premier jour du 7e mois. Et aujourd'hui, nous parlons de la fête des expiations. Cette fête avait lieu le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire 9 jours après la fête des trompettes, c'était là la fête des expiations. Et bien aimé, c'était la fête la plus importante ou le jour le plus important pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le seul jour où l'homme pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu à l'époque était dans le lieu très saint. Nous voulons rappeler ici que les sacrifices se faisaient au niveau du tabernacle. Et dans le tabernacle qui était séparé de trois parties, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Tous les Lévites, c'est-à-dire tous les Lévites et les membres du peuple de Dieu, le peuple, les autres tribus, je vais dire, ces gens arrivaient, ne restaient que au niveau du tabernacle, la partie extérieure du parvis. Et la partie intérieure du parvis, nous trouvions là, il y avait les Lévites, mais qui n'étaient pas des sacrificateurs. Les sacrificateurs, maintenant, avaient accès dans le lieu saint. Maintenant, seul le souverain sacrificateur avait accès dans le lieu très saint. Et cela se passait qu'une seule fois l'année. Donc, pour ces gens-là, pour voir Dieu, et ce n'était qu'une seule personne qui voyait Dieu, disons ça comme ça, parce que la présence de Dieu était dans le lieu très saint, tu étais le seul, le souverain sacrificateur. Et cela se passait qu'une seule fois. Et cela se passait qu'une seule fois, le jour des expiations. Le jour des expiations qui est connu en hébreu sous le nom de Yom Kippour. Alors, pour mieux comprendre le jour des expiations, je nous conseille de lire tout le chapitre 16 de Lévitique. En tout cas, tout le chapitre 16 de Lévitique est consacré à la cérémonie ou au rituel de jour des expiations. Et nous allons comprendre ici que cette cérémonie, ces rituels bien-aimés, ce rituel qui se faisait, était l'image des choses à venir. La fois passée, nous étions en train de dire, de nos jours, les gens ont pris, ont rattrapé un certain nombre de fêtes. Nous avions dit que si ces fêtes étaient physiques, alors l'Église devait aussi célébrer ces sept fêtes, parce que ce sont les fêtes de l'Éternel. Alors pourquoi l'Église d'aujourd'hui prend seulement, a pris peut-être deux fêtes, c'est-à-dire la fête de Pâques et la fête des pains sans levain, en laissant les cinq autres fêtes. Donc c'est comme si les cinq autres fêtes, c'est ce qui est resté spirituel, mais les deux autres, on a plus bien aimé matérialiser cela. Non, bien aimé dans le Seigneur. En Dieu, dans la loi, selon la loi, on ne peut pas prendre une fête et laisser d'autres de côté. S'il faut célébrer une fête selon la loi, selon les rituels, selon la religion, bien aimé, il faut célébrer toutes les fêtes. Donc nous comprenons par là que toutes ces fêtes, en réalité, n'étaient que des enseignements. Parce que, bien aimé, nous constatons ici que les fêtes, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et Dieu avait donné une orientation à ces gens pour que ces gens sachent comment célébrer ces fêtes. Ce n'était pas leur fête, donc ces gens ne pouvaient pas prendre le risque, ou bien aimé, prendre le risque de faire ces fêtes comme ils le voulaient, ou d'établir n'importe quelle fête dont les églises. Qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Il y a beaucoup de fêtes qui existent, qui n'ont rien à voir. D'abord, même avec les Écritures, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Quand les gens célèbrent la fête, par exemple, de Noël, hein, les gens sont réunis, ils ont mis en place une date, on suppose que c'est le jour où Jésus-Christ est né, et on célèbre la naissance de Jésus. Les gens célèbrent la fête de l'Éternel, ou c'est leur fête. Vous comprenez que ce sont des fêtes, ça fait partie des fêtes des hommes. Hein, c'est comme la journée mondiale du cancer, la journée mondiale du sida, la fête, je ne sais pas, de l'Ascension de Marie, la fête des pères, la fête des mères, la fête des enfants, des vieilles personnes, etc. Bien aimé, c'est bien peut-être dans le monde, mais faisons très attention lorsqu'il concerne, parce que cela concerne les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est soit nous prenons ou nous mettons de côté. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de demi-mesure. Si dans le monde, on considère la réussite en termes de pourcentage, hein, il faut avoir par exemple plus de 50%. Si tu fais quand même 98%, on dit que tu es quand même bon. Mais bien aimé, chez Dieu, c'est soit le 100% ou le 0%. Soit vous le faites complètement comme il a dit, soit vous ne le faites pas. Et si vous faites à moitié, vous êtes considéré, bien aimé, comme ceux qui n'ont rien fait. Car il a dit dans le livre d'Apocalypse, « Je veux que tu sois soit chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. » Donc tous ceux qui sont tièdes, qui veulent mélanger le monde avec l'Église, ou prennent les choses, qui prennent les choses du monde pour les insérer dans l'Église, bien aimés dans le Seigneur, à la fin, ces gens-là seront rejetés. Même si ça peut paraître beau devant les hommes, sachez que bien aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu et on ne blague pas avec les choses de Dieu. On ne peut pas bien aimé servir le Dieu vivant, le Dieu éternel, en utilisant les moyens et les tactiques des hommes finis. Bien aimé, à chaque fois que nous prenons ce qui est du monde pour emmener dans l'Église, à chaque fois que nous prenons le système du monde pour l'insérer à l'Église, bien aimé, ces choses finissent par emmener la mort. Souvenez-vous de David. David avait pourtant eu une bonne idée. Bien aimé, ce n'est pas le fait d'avoir une bonne idée que, bien aimé, Dieu va approuver ce que nous faisons. Une bonne idée, c'est bien. Savoir ce que Dieu veut, c'est bien. Mais connaître la procédure aussi, bien aimé, c'est une chose. David, quand il arrive au pouvoir, il se rend compte que l'arche de l'Éternel était encore entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors qu'il dormait dans un palais, l'arche de l'Éternel se trouvait hors d'Israël. Il a eu une bonne idée, une bonne initiative de ramener l'arche. Mais qu'est-ce que David avait fait? Au lieu de suivre la loi de l'Éternel qui disait qu'il fallait que l'arche soit portée sur les épaules des Lévites, comme lorsqu'on a volé l'arche, les Philistins avaient mis l'arche sur un char. Il a utilisé la méthode des Philistins. Et pour apaiser son cœur, David a pris un char neuf qui n'avait pas été utilisé. Bien-aimé, ce n'est pas le fait d'avoir un char neuf, mais c'est bien-aimé la méthode qui compte. Il a mis l'arche de l'Éternel sur le char. Et pendant que bien-aimé, le char venait, la Bible dit qu'ils se sont mis à danser. Bien-aimé, ce ne sont pas les danses, ce ne sont pas bien-aimé les choses émotionnelles qui vont prouver que Dieu est avec nous ou que Dieu approuve. Quelquefois, c'est simplement le bruit. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, de nos jours, pour justifier la présence de Dieu, souvent on parle de la présence de Dieu en termes du bruit. Quand il y a beaucoup de bruit, on dit Dieu était là. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu est dans sa parole. Car la Bible parle d'Élie. Un jour, Dieu dit à Élie de se placer sur la montagne. Alors, il devait se révéler à lui. La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Mais lorsque Élie a entendu des murmures, bien-aimé, légers, hein, des murmures doux et légers, il a voilé son visage. Il a compris que Dieu était là. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Si tu veux savoir si Dieu est quelque part, bien-aimé, examine la parole. Parce qu'au commencement, la Bible dit était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas prendre les faits du monde et les emmener dans l'église. David a utilisé la méthode des Philistins. Peut-être c'était une méthode qui allait être plus rapide, mais c'était désastreux, bien-aimé. Pourquoi? Il y avait Uza qui marchait devant. Et Dieu a permis que, bien-aimé, les bœufs puissent faire bouger l'arche, alors que l'arche partait, allait tomber. Uza a étendu sa main. Lorsqu'il étendit sa main, il a touché à l'arche. Aussitôt, Dieu le frappa. Il était mort sur place. Pourquoi? Parce que bien-aimé, il a touché bien-aimé à l'interdit. Faisons très attention. On ne doit pas prendre des choses du monde, la musique du monde, le style du monde, les méthodes du monde et les emmener dans l'église. Quand vous emmenez le monde dans l'église, c'est la mort qui frappe. L'église, c'est comme l'arche de Noé. L'arche, le bateau de Noé, bien-aimé. C'est comme l'Église et le monde, c'est comme l'eau, comme dit Apocalypse 17, verset 15 ou 15, 17. Les eaux que tu as vues, ce sont les langues des nations et les peuples. Donc le monde est représenté par l'eau. L'Église dans le monde, c'est bon. C'est-à-dire l'eau sur le bateau sur l'eau, c'est bon. Mais lorsque le monde commence à entrer dans l'Église, quand l'eau commence à entrer dans le bateau, quelle sera la suite? C'est la mort. Et cette mort, malheureusement, frappe d'abord spirituellement. Et nombreux bien-aimés ne réalisent pas qu'ils sont morts. Nombreux ne réalisent pas qu'ils sont nus. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, du verset 16 jusqu'au verset 20 là-bas, vous allez constater que par rapport à l'église de Laodicée, le Seigneur dit de cette église, tu es nu, tu es aveugle, tu es misérable, mais tu penses que tu es riche parce que tu définis la présence de Dieu ou la richesse en termes de matériel. Combien de fois les gens ont dit dans notre église, Dieu nous bénit. Oh, nous sommes bénis parce qu'il y a beaucoup de mariés. Nous sommes bénis parce que nous avons un grand bâtiment. Nous sommes bénis parce que nous avons des grands cadres, des responsables de la société qui prient chez nous. Nous sommes bénis parce qu'il y a du monde chez nous. Nous sommes bénis à cause de nos instruments, de nos chantres, à cause de la beauté extérieure. Vous savez-vous que Jésus, alors qu'il sortait du temple, la Bible dit que les disciples étaient venus pour lui faire remarquer la beauté du temple. Jésus a dit, regardez-vous cela. Sachez qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversé. Il parle de la destruction de ce temple. Et ce qui reste actuellement en Israël, de ce beau temple construit en 46 ans, c'est simplement ce mur qu'ils appellent le mur de lamentation, le mur de prière actuellement en Israël. La vraie beauté d'un bien-aimé physique. L'église, c'est la sainte Jérusalem et la Babylone. Lorsqu'on parle de Babylone, c'est Babylone la grande. Voilà pourquoi, faisons très attention. Ne courons pas après la grandeur extérieure, car toutes ces choses vont passer comme bien-aimé. Le papier passe dans le vent. Toutes ces choses vont passer. Mais celui qui marche avec Dieu demeure éternellement. Revenons bien-aimé à notre fête, la fête des expiations. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle, en 2007, je pense bien, j'étais invité dans une église. Bien-aimé, j'étais scandalisé ce jour-là. J'arrive, et c'était au moment où, hein, le moment qu'on appelle le moment des offrandes, le moment où les gens devaient partir. déposé l'argent dans le panier, j'ai constaté qu'on avait sorti beaucoup de paniers. Et c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les églises avec plusieurs paniers. Ça, c'est le panier de ceci. Ici, vous mettez l'argent pour ceci. Le panier de ceci. Il y avait au moins bien aimé 8 paniers devant. Et parmi ces paniers, il y avait le panier de l'offrande de culpabilité. Bien aimé, j'ai mis la main sur la tête. Offrande de culpabilité. Donc, comme si on donnait de l'argent pour acheter ses péchés. On donnait de l'argent pour acheter ses péchés. Et là, bien aimé, j'ai compris que ces gens n'ont rien compris de la mort de Jésus. Ces gens n'ont rien compris du sacrifice ultime, du sacrifice parfait qui a été donné à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils bafouent, bien aimé, le sacrifice parfait et ils marchent sur le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Bien aimé, c'était quoi? Ou c'est quoi la fête des expiations? La fête des expiations, bon, je vais lire rapidement le verset 33 à la fin de l'autre là du livre de Lévitique, du chapitre 33, du chapitre 16 de Lévitique 33. La Bible dit ceci. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de la sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour le sacrificateur et pour tout le peuple de l'assemblée. Donc, quelle est la nécessité de l'expiation? Premièrement, il est important de savoir. D'abord, le mot expiation qui signifie Kippourim. Voilà pourquoi j'ai dit du jour de Yom Kippour. Yom, c'est jour. Hein, Kippour, c'est expiation. Le Kippourim, c'est-à-dire ce qui signifie couvrir. Hein, cela renvoie à une idée de couvrir le péché grâce à une somme de valeur équivalente, c'est-à-dire un rançon. Donc, Kippour signifie couvrir. Expier signifie couvrir. Voilà pourquoi. Même dans le tabernacle, il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire. C'est là-bas qu'on mettait le sang. Et on couvrait, bien aimé, le sang. Pourquoi, bien aimé, ce jour? Cela était destiné à racheter la gravité de l'offense. La gravité de l'offense ou le péché qu'avait commis le peuple d'Israël. En effet, Dieu avait déjà mis en place des lois sur le pardon de péché, sur, on peut dire, l'expiation. Mais ce jour-là était un jour spécial. Cela se passait qu'une seule fois. Je ne sais pas si certainement ça se passait à la fin de l'année, mais c'est le 7e mois. Mais bien aimé, ce jour-là, on célébrait cette fête juste au cas où, parmi les péchés qu'on avait commis, si ces péchés n'étaient pas pardonnés, alors où ces péchés étaient oubliés, ce jour-là venait pour expier, pour enlever totalement des péchés oubliés. Donc c'est le seul jour où l'homme rentrait dans la présence de Dieu. Alors, le jour des expiations donnait lieu à un rassemblement solennel. C'était très important. Le peuple jeûnait, on a lu ça là-bas. Et s'humilier devant le Seigneur. Cette attitude démontrait la gravité du péché et le fait que l'expiation proposée par Dieu n'était efficace que pour ceux qui voulaient en réalité se repentir sincèrement et qui persévéraient dans la foi. Bien aimé, c'est très important. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier de toute iniquité. Donc ce jour-là était important et fonctionnait dans la vie de tous ceux qui prenaient ce jour à cœur et ceux qui s'humiliaient réellement, qui reconnaissaient réellement leur péché. C'est très important. Voilà pourquoi vous allez comprendre l'attitude de Jean-Baptiste à l'égard des pharisiens et même Jésus. Quand ces gens venaient pour se faire baptiser, il appela les pharisiens par race de vipères. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous venez à Dieu pour vous faire baptiser, alors que le baptême de Jésus, c'est le baptême de repentance, mais vous ne voulez pas changer dans votre cœur. Vous ne venez pas avec l'attitude d'humiliation ou d'humilité, mais vous venez simplement accomplir des rituels. C'est comme ça que plusieurs agissent également dans l'Église. Ils demandent pardon juste parce qu'on a dit de demander pardon. Et le problème aussi, c'est le système aujourd'hui des Églises. À chaque fois, lorsque les gens se rassemblent, Prions pour demander pardon à Dieu. Et ils ont un verset pour justifier cela. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, se séduit lui-même. Donc même si tu n'as pas péché, tu ne reconnais pas tes péchés, il faut toujours demander pardon. Et après avoir demandé pardon, on invoque le sang de Jésus. Bien-aimés, avez-vous vu un endroit où les apôtres dans la Bible ont invoqué le sang de Jésus? Et à chaque fois que vous retombez, vous invoquez le sang. À chaque fois que vous vous retrouvez, vous invoquez le sang. Bien-aimés, le sang avait-il été versé plusieurs fois? Lisons un peu ça dans Hébreux pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ce sont des doctrines, mais est-ce que ce sont des doctrines ou c'est la doctrine qui vient de Dieu? Ou nous faisons juste parce qu'on a vu les gens faire? Remarquez, regardez ceci. Hébreux chapitre 9. Je vais prendre à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. En disant ceci, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, et que ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré dans le sanctuaire, dont il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. La Bible dit que lorsque le souverain sacrificateur entrait, en effet, c'est comme s'il partait pour apporter ou pour se souvenir. Et c'est qu'il se souvenir du péché du peuple. Chaque fois qu'il rentrait dans le tabernacle, bien-aimé, il rappelait les péchés passés. Donc les péchés étaient toujours en souvenir. Voilà pourquoi le propitiatoire couvrait le péché. Mais lui n'est pas venu pour couvrir le péché, lui il est venu pour ôter le péché. Donc pourquoi, bien-aimé, le jour des expiations? L'expiation, bien-aimé, a pour but d'enlever, bien-aimé, le péché totalement de l'homme. Mais c'est Christ qui a enlevé le péché. Mais pour enlever, bien-aimé, le péché, il était question que nous puissions, bien-aimé, nous identifier à lui. Nous allons y revenir. Mais parlons un peu, bien-aimé, de deux boucs. Parce qu'il y a dans ce rituel bien-aimé qui concerne l'expiation, deux boucs. Il y avait le bouc tiré au sort, il y avait un tirage au sort qui se faisait. Il y avait le bouc de l'Éternel et le bouc d'Azazel. Le bouc de l'Éternel, hein, le bouc sur lequel était tombé le sort pour l'Éternel, était emmené dans le sanctuaire, on tuait le bouc et on sacrifiait bien-aimé son sang. Et le bouc d'Azazel, c'était le bouc sur lequel, bien-aimé, lorsqu'on le prenait, le sacrificateur déclarait des paroles en prononçant, bien-aimé, les paroles sur ce bouc. Et ensuite, ce bouc-là était relâché pour aller dans le désert, une façon d'expier, bien-aimé, le péché. En effet, ces deux boucs représentaient, bien-aimé, Jésus-Christ. Parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Il a donné son sang. Il est mort, bien-aimé, pour toi et moi. Et c'est le même aussi. Où est-ce que, bien-aimé, il a été crucifié? Il a été crucifié, bien-aimé, hors du camp, sur le mont Golgotha. Donc lui-même, il est le bouc d'Azazel. Il représente aussi le bouc, bien-aimé, de l'Éternel. Mais toutes ces choses, bien-aimé, toutes ces cérémonies avaient, bien-aimé, pour but d'expier le péché, de briser le mur de l'iniquité, de briser le mur, bien-aimé, de l'inimitié entre nous et Dieu, afin que nous puissions rentrer, bien-aimés, dans la présence de Dieu, afin que nous puissions avoir, bien-aimés, une place, une communion, afin que nous soyons en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il a dit, avant de mourir, « Prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Or, dans l'ancienne alliance, on donnait des sacrifices. Voilà pourquoi, c'est toujours dans Hébreux, il est écrit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Les sacrifices bien-aimés que donnaient les Israélites, c'était des sacrifices bien-aimés qui n'ont pas pu conduire le peuple à la perfection. Mais à chaque année, bien-aimé, il fallait donner des sacrifices. Chaque année, il fallait rappeler le sang. Chaque année, il fallait donner des sacrifices. Voilà pourquoi Christ est mort une seule fois afin, bien-aimé dans le Seigneur, de nous emmener dans la présence du Père. C'est très important. Il n'est pas mort plusieurs fois. Il n'est donc, il ne sera pas frappé plusieurs fois. C'est à cause de cela que, bien-aimé, Moïse avait manqué l'entrée à Cana. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple avait envie de boire de l'eau, le peuple cria aux oreilles de Moïse. Moïse, Dieu lui a dit de frapper le rocher. Pour la première fois, l'eau était sortie. Mais la deuxième fois, puisqu'il avait déjà frappé le rocher, l'eau était déjà sortie. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de frapper le rocher. Il fallait parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, Moïse avait encore frappé. Et finalement, Dieu lui a dit que tu as été rebelle. Tu n'as pas honoré devant ce peuple. Pourquoi? Parce que le rocher, c'est Christ. Et on ne peut pas frapper Christ pour une deuxième fois. Voilà pourquoi, quelque part, il est écrit, pour ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui ont été convertis, lorsque ces gens-là tombent encore dans le péché, bien-aimés, c'est difficile pour ces gens de se reconvertir. La Bible dit, parce qu'eux, ils crucifient Christ, Christ de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Une fois que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu marches dans ses voies. Lorsque délibérément, tu vas pécher, bien-aimé, c'est comme si tu crucifiais Christ de nouveau. Tu l'emmenais encore, bien-aimé, à la croix. Tu l'emmenais encore, tu l'exposais encore aux insultes, aux crachats. Ô bien-aimé dans le Seigneur, avant de pécher, cette fois-ci, souviens-toi de cela. Que à chaque fois que tu pèches, tu crucifies Christ de nouveau. Donc, bien-aimé, le Yom Kippour, c'était bien-aimé cette fête qui était célébrée pour la gloire de l'Éternel. Et c'était, comme je disais, c'était vraiment un riche symbolisme par rapport à l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est très important. Mais pour nous, bien-aimés, pour expérimenter cela, nous devons nous identifier à Christ par sa mort. Voilà pourquoi vous avez vu ici, ceux qui participaient à cette fête, c'était des gens bien-aimés qui devaient humilier leurs âmes. Bien-aimés, c'était une humilité sincère. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est très important. Il faut avouer. C'est bien de regretter son péché, mais il faut avouer et délaisser. Ce n'est pas que tu regrettes pour pécher encore le lendemain. J'ai vu des gens demander pardon à Dieu par commission, c'est-à-dire demander pardon à l'avance. Hein, il dit, Dieu pardonne-moi parce que je vais aller pécher. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'iniquité. Lorsqu'on demande pardon, on doit être sincère. Et lorsque nous sommes sincères, nous devons décider. C'est vrai que la force vient de Dieu, mais décider de toute conscience d'abandonner ce péché et de s'en détourner. Et c'est alors que la miséricorde viendra, bien-aimé, sur nous. C'est très important. Contrairement, nous n'avons pas expérimenté l'expiation. Pourquoi l'expiation? L'expiation, bien-aimé, c'est pour ne pas que nous soyons sujets aux attaques du malin. C'est là où plusieurs personnes ne comprennent pas Apocalypse chapitre 11. Là où la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lisons un peu ça, Apocalypse chapitre 12, verset 10 jusqu'au verset 11. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, écoutez bien, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Remarquez bien, ils ont vaincu à cause du sang par rapport à quoi? Par rapport aux accusations. Christ a donné sa vie comme rançon. Pourquoi? Pour nous racheter de la malédiction de la loi. Parce que selon la loi, il était écrit, si tu fais ceci, tu dois tomber dans tel problème. Si tu fais ceci, voici ce qui doit t'arriver. Et comme l'homme était incapable de mettre la loi en pratique dans son intégrité, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Jésus est venu. Et Paul explique que la loi était un enseignement. La loi n'est pas mauvaise, mais la loi était un pédagogue qui devait nous conduire, bien-aimés, à la grâce, qui devait nous conduire à comprendre la grâce, à comprendre Christ. Et comme la grâce est venue, nous n'avons plus besoin de nous attacher encore à la loi. Et si tu vas dans une église où on fait des sacrifices, soit des moutons, ou encore tu vas dans un milieu spirituel où on doit faire des sacrifices des moutons, des sacrifices des coqs, etc., bien-aimés, comprenez que c'est le culte des ancêtres, ils invoquent d'autres esprits. On n'a plus besoin de faire couler encore le sang parce que le sang de Christ a été déjà versé. Ce que nous devons faire, nous devons simplement nous attacher à lui. Qu'est-ce que nous constatons? La Bible dit quoi? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi? Satan nous accusait par rapport à ce qui est écrit dans la loi. Il nous accusait jour et nuit. Mais Jésus est venu comme... Jésus a donné son sang. Il est venu. Il a donné son sang comme rançon. Afin que ce que nous devions payer à cause de nos fautes, bien aimé, tombe sur lui. C'est là où Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lisons un peu ça. J'aime beaucoup ça. J'aime tout le chapitre d'Ésaïe, mais je préfère prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien ce passage. C'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos fautes. Bien-aimé, le diable n'a plus bien-aimé raison. Il n'a plus bien-aimé raison de t'accuser. Même si tu as péché ou tu avais péché, quelle que soit la taille, la quantité ou la grandeur de ton péché, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de tout péché. Le diable n'a plus le droit de t'accuser parce que Jésus a pris la faute sur lui. Si le diable te rappelle ton péché, rappelle-lui son avenir. Il va finir dans le temps de feu. Il va finir dans les temps de feu, dans le feu éternel. N'accepte plus qu'un homme ou que Satan ou ses démons ou qui que ce soit te condamne pour quoi que ce soit. Si Dieu t'a déjà libéré, si Dieu t'a déjà pardonné. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, l'expiation, c'est aussi bien aimé pour notre délivrance. Nous avons été libérés de la malédiction de la loi. Par conséquent, nous ne repartons plus, bien aimé, à nous mettre de nouveau sous le joug de la loi. Contrairement, on va bannir ou marcher sur le sacrifice de Jésus-Christ. Bon, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Nous continuerons prochainement, si possible, et atterrir avec la dernière fête, la fête des tabernacles. Que Dieu nous bénisse tous, qui nous aide à comprendre ces choses et à être éveillés. Veillons et prions pour ne pas céder à la tentation. La nuit est avancée, le jour approche. Ne ratons pas l'enlèvement. Préparons-nous tout le temps. Préparons-nous tout le temps. Lavons nos robes, c'est-à-dire nos œuvres. Veillons sur notre conscience. Ayant toujours une conscience tranquille, ayant toujours bien aimé, une conscience pure, et marchant devant Dieu. Et au jour où le Seigneur viendra, bien aimé, nous serons récompensés. Veillons et prions, je répète, veillons et prions pour ne pas céder à la tentation. Que Dieu nous bénisse. Amen.